C'est Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
À tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Fait Platon Malin, votre émission consacrée à la philosophie et au cinéma, un jeudi sur deux de 14h à 14h30. Et aujourd'hui, on est avec Paul Babin, professeur de philosophie, et on va parler de la comédie dramatique Billy Elliot, sortie en 2000 et réalisée par Stephen Daldry.
RCN, Fait Platon Malin, Margot Gross.
Salut Paul, comment ça va ?
Salut Margot, ça va bien et toi ?
Super. On se connaît un petit peu puisque j'ai fait partie de tes élèves il y a bien 2 ans. En tout cas, c'est la première fois que tu viens dans nos locaux et on est très contents.
Bah moi aussi, merci.
Pour commencer, Paul, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, en tout cas rappeler aux auditeurs, l'histoire du film Billy Elliot ? Si tu devais résumer ça en quelques mots, tu dirais quoi ?
Ouais, alors c'est l'histoire d'un petit garçon de 10-11 ans qui s'appelle Billy, qui évolue dans un milieu très ouvrier, très pauvre, qui est marqué par un contexte de grève en plus. Qui suit des cours de boxe, auxquels il est très mauvais, on peut le dire, et qui découvre par hasard un jour, dans le même gymnase, des cours de danse, auxquels il finit par participer, et sa professeure de danse, donc Mrs. Wilkinson, se rend compte qu'il est très doué, et va chercher à lui faire intégrer une école prestigieuse de danse à Londres.
Et donc tu ne connaissais pas le film, c'était la première fois que tu le voyais ?
Ouais, c'était la première fois, c'était une belle découverte du coup.
Dans le film Billy Elliot, le personnage principal, il est confronté à des modèles de masculinité qui sont transmis inconsciemment à travers sa position sociale. Donc on a son capital économique, on rappelle qu'il est issu d'une classe ouvrière, mais aussi la géographie, il vit dans une petite ville minière. Ou encore l'environnement familial, puisqu'il vit dans un environnement majoritairement masculin, puisque sa mère est décédée. Alors il y a certains penseurs qui ont travaillé sur la notion de ces représentations inconscientes, je pense notamment au sociologue Bourdieu.
Oui, alors c'est intéressant parce que Bourdieu parle de ça notamment quand il analyse les modalités du langage tel qu'il peut se déployer dans les milieux populaires, dans un ouvrage qui est un recueil d'articles qui s'appelle « Langage et pouvoir symbolique ». Il y a un texte qui s'intitule « Vous avez dit populaire », où il analyse précisément ce que ça veut dire que populaire, dans les façons de parler, etc. Et je me rappelais tout ça en regardant le film. Et précisément, il y a une des modalités du parler populaire qui est que c'est dominé, c'est une prégnance de la domination masculine. C'est-à-dire qu'on cherche à parler fort, il s'y applique ce que Bourdieu appelle une morale de la force. On parle fort, on dit des insultes, on laisse pas parler les femmes, et d'ailleurs dans le film, comme tu l'as dit, hein, il y a très très peu de femmes en fait. Hein,
oui.
La seule femme qui hante un peu le film, c'est la figure de la mère. Il y a Mrs. Wilkinson, mais qui appartient à un autre milieu, hein, clairement, peut-être qu'on le redira après. Et il y a la grand-mère aussi, mais qui occupe une place très marginalisée en fait, personne ne l'écoute, etc.
Si le moi est déterminé par cette inconscience sociale qui est l'habitus, est-ce que déjà tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'habitus, en tout cas au sens de Bourdieu ?
Ouais, un habitus, alors c'est pas un inconscient social, en un sens, un inconscient en sens psychologique ou psychanalytique. C'est plutôt un système de disposition. C'est-à-dire c'est un système de comportement qu'on est prédisposé à adopter, à réaliser, etc. et qui dépend effectivement du milieu social auquel on appartient ou dans lequel on évolue.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de passivité d'être dirigé par cette inconscience sociale qui est l'habitus ? On peut se poser la question de l'autonomie, de la liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre de se construire tel que l'on souhaite, en sachant que nos comportements sont déterminés par cet habitus ?
C'est compliqué, c'est une question un peu vertigineuse. J'aurais tendance à dire quand même que c'est pas incompatible avec une forme de liberté ou avec la possibilité d'une libération. D'ailleurs, Billy incarne l'exemple parfait, c'est-à-dire que Billy parvient à se libérer dans une certaine mesure, pas totalement, mais des modèles dont il hérite. C'est-à-dire que Billy, il a aussi des comportements très virilistes, très masculinistes. Il est violent, on le voit plusieurs fois chahuter avec ses amis, claquer la porte à la figure de son ami au début du film, quand son ami refuse de faire de la boxe avec lui. On le voit chahuter avec Debbie, qui est une autre personnage du film, qui est la fille de sa professeure de danse, violemment. on le voit tenir des insultes homophobes, etc. Hein. C'est aussi un aspect du masculinisme. Hein. C'est le fait de revendiquer son hétérosexualité. Donc Billy, quand même, constitue un exemple de la façon dont on peut se libérer. Après, cette libération, elle va passer aussi par des socialisations particulières. Là, ici, dans le film, ce qui permet à Billy de se libérer, c'est pas une prise de conscience individuelle, solitaire, c'est la relation avec Mrs. Wilkinson, c'est la relation, une interaction particulière avec un autre milieu que le sien, qui est un milieu beaucoup plus bourgeois, et où on trouve d'autres figures de la masculinité, pour le coup.
Est-ce qu'on peut parler d'émancipation, du coup ?
Bien sûr, ouais, je pense. Libération à la fois culturelle, j'ai presque envie de dire mentale, parce que c'est ce que je disais un peu, la conception kabylie de la masculinité, elle évolue, alors peut-être pas du tout au tout, mais elle évolue en partie. Au début du film, Billy, parce que du coup il devient danseur, hein, il se met à faire de la danse, il a honte de faire de la danse. Au début même, il n'accepte pas de devenir un habitué du cours de danse. Lorsque Mrs. Wilkinson, après sa première séance, lui dit « on te revoit la semaine prochaine », Billy dit « non, moi je fais de la boxe ». Et quand il dit « je fais de la boxe », ce que ça signifie c'est « non, moi je suis un vrai garçon, je fais des activités qui sont associées à la masculinité ». C'est un refus de participer à des activités qui sont... d'assumer de participer à des activités qui sont associées à la féminité. Et j'ai oublié ce que je voulais. J'ai oublié la question.
Son émancipation, du coup, elle est possible grâce au soutien de sa prof de danse. Est-ce que pour toi, c'est un hasard que ce soit une femme qui le libère un petit peu de ses comportements, de cet habitus ?
Non, je pense pas. D'ailleurs, ça fait écho un petit peu à l'absence de la mère tout au long du film. Et c'est qu'elle va incarner une forme de figure maternelle pour Billy. Alors à la fois une figure d'exigence, etc., de discipline, hein, parce que c'est elle qui l'entraîne, c'est elle qui le reprend, c'est elle qui dispute, il y a des scènes assez violentes où il se dispute avec elle, où il lui fait des reproches assez violents, mais il y a aussi des scènes où elle incarne vraiment une figure maternelle. Il y a une scène qui est très touchante d'ailleurs dans le film, où Billy lit à Mrs. Wilkinson une lettre que lui a écrite sa mère avant de mourir, où elle lui dit en gros qu'il faut qu'il assume ce qu'il est, qu'il n'hésite pas à faire ce qu'il veut faire, etc. Et le fait qu'il le lise à Mrs. Wilkinson exclusivement, on peut interpréter ça comme une forme de passage de témoin, d'une certaine façon. Par ailleurs, c'est lui qui lui apprend l'existence, du coup on en revient à l'émancipation sociale, c'est elle qui lui apprend l'existence d'écoles de danse, qui lui permet de comprendre que la danse, ça n'est pas juste un hobby, mais que ça peut être pour le coup une vraie possibilité de carrière, donc que ça peut lui permettre d'accéder à des emplois, si on peut dire ça comme ça, ou des positions en tout cas qui ne correspondent pas du tout à celles qu'il a l'habitude de voir. Et même Mrs. Wilkinson, et Debbie aussi, hein, la fille de Mrs. Wilkinson, elle va apporter d'autres modèles de la masculinité. C'est-à-dire que les modèles que Billy a sous les yeux, ce sont des modèles ouvriers, c'est son père, son frère, qui incarne des figures très virilistes, violentes, etc., qui disqualifient complètement la possibilité pour des hommes de faire de la danse. Mais Mrs. Wilkinson, et même sa famille, il y a une scène où Billy va manger chez eux, vont associer la danse, au contraire, à des figures masculines. Il y a Gene Kelly, si je ne dis pas de bêtises, etc., qui est évoqué, il y a Wayne Sleep aussi, etc., et c'est des façons de dire à Billy, mais non, il est possible d'être un homme tout en faisant de la danse, il est possible d'être masculin, viril, tout en faisant de la danse, prends exemple sur ces personnes-là, il y a une façon de les montrer en exemple comme ça, comme pour reconfigurer un peu la perception qu'a Billy de la masculinité, de ce que l'on peut faire quand on est un homme.
Dans un instant, Paul, tu restes avec nous sur RCN et on parlera des autres thèmes qu'évoque le film Billy Elliot et comment il s'illustre. Mais tout de suite, on écoute la bande son de Billy Elliot, Cosmic Dancer by T-Rex. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? I
dance myself into the tune. I dance myself into the tune. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. Is it wrong to understand? Inside a man, oh. What's it like to be alone? I liken it to a balloon. Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. And then again once more I dance myself out of the womb. I dance myself out of. Strange to dance so soon. I dance myself out of the womb.
Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
C'était Cosmic Dancer by T-Rex à l'instant sur RCN. On est toujours avec Paul Babin, professeur de philosophie. Tu es venu nous parler aujourd'hui de la comédie dramatique Billy Elliot. On disait tout à l'heure que c'est notamment un film dans lequel la thématique de l'inconscient social est très présente. Ici, le personnage de Billy est confronté à un habitus, comme on disait tout à l'heure, inconscient, qui est lié à son genre, qui présuppose qu'il doit être viril pour correspondre au standard de son genre. Et pour ça, il est d'abord inscrit dans un cours de boxe et va découvrir après le milieu dit féminin de la danse. Il va en être fasciné jusqu'à vouloir pratiquer aussi la danse malgré ses standards de masculinité. Sa famille le rejette, il rejette l'idée qu'il puisse s'écarter de cette masculinité liée à son genre. Mais est-ce que le genre définit, est-ce qu'on peut dire qu'il définit vraiment nos goûts, nos passions? On parle souvent de construction sociale, mais est-ce que c'est le cas pour Billy Elliot?
Ah oui, clairement. Enfin, c'est en tout cas les premières aspirations qu'il a, c'est-à-dire celle d'être fort, de faire de la boxe, etc. C'est des goûts que Billy revendique. Il est nul, hein, pourtant, hein, clairement. Enfin, on le voit, il y a une scène un peu ridicule comme ça où il se fait coucher en un coup. Mais il y a une scène qui précède justement où il est en train de parler avec Michael, son meilleur ami, et qui est d'ailleurs un personnage intéressant parce que lui aussi, ça constitue une forme de contre-modèle à toute cette masculinité, ce virilisme ambiant. Mais Billy lui dit non, moi j'aime la boxe, je suis fort, etc. Et en plus ça s'inscrit dans une espèce d'héritage familial parce que Billy il y va avec les gants de son père et de son grand-père, et on sent bien d'ailleurs que pour le père il y a comme une espèce de point d'honneur à ce que Billy fasse de la boxe, à ce qu'il y excelle, etc. C'est-à-dire qu'il y a une scène par exemple où Billy est en train de cacher son matériel de danse lorsque son père fait irruption dans sa chambre, et bon, vu qu'il est dans une posture un peu bizarre, son père lui dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et Billy lui dit, j'ai perdu les gants, je suis en train de les chercher. Et on sent bien que pour le père, c'est un point d'honneur. Il y a comme une espèce de prestige familial comme ça qui passe à travers la boxe. Donc oui, là, clairement, son goût pour la boxe, c'est le produit de son environnement familial.
C'est un peu une sacralisation de tout ce qui est masculinité, en fait. C'est un côté toxique, on peut dire ça ?
Oui, en l'occurrence, oui, dans ce milieu-là, oui, clairement. Il est toxique parce qu'il est destructeur. On le voit clairement. C'est-à-dire que il y a ce que Bourdieu appelle une espèce de morale de la force qui s'installe, enfin qu'on voit prospérer dans le milieu, dans la famille de Billy, et même dans l'environnement alentour. Et on voit que c'est destructeur pour les relations. Notamment à travers la relation entre Tony, donc qui est le frère aîné de Billy, et le père, on voit que c'est une relation qui est très conflictuelle, qui est fondée sur une espèce de concurrence viriliste. C'est-à-dire que chacun essaie d'être plus viril que l'autre. On voit que Tony cherche parfois à s'immiscer un peu dans l'éducation de Billy, de concurrencer son père. Il y a aussi le rapport à la grève qui est intéressant, c'est une espèce de nappe de fond du film. Il y a une scène où en fait, le père et Tony sont des figures de proue du mouvement de grève, c'est clairement des figures importantes du mouvement. Et il y a une nuit, et c'est une scène qui est assez terrible, hein, une nuit où Tony en fait, est prêt à sortir avec un marteau pour aller mener une action violente contre les forces de l'ordre, parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le film. Il y a des scènes, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Billy reste très indifférent à tout ça, au début du film en tout cas. Où on voit des CRS partout, etc., des policiers avec des boucliers, etc. Et il y a une nuit où Tony veut mener une action violente, et c'est le père qui s'interpose, etc., et les deux finissent par se battre, en fait. Et pareil, on le voit aussi dans la relation entre le père et Billy, c'est que la première fois que le père apprend que Billy fait de la danse, il l'attrape par les épaules, il le jette contre le mur, donc c'est extrêmement violent, quoi.
Et d'ailleurs, la philosophe Judith Butler parle de performativité du genre pour désigner ces fameux comportements, ces façons de parler, ces attitudes. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que déjà on peut modifier cette performativité du genre ?
Ouais, alors la performativité du genre, du coup, c'est un mot un petit peu barbare, qui désigne comme quelque chose d'assez compliqué. Ce qu'elle veut dire, c'est que le genre se constitue à travers certains types d'énoncés qui sont des énoncés performatifs. En fait, c'est des énoncés, ça va aussi... Ça va aussi inclure des représentations visuelles, etc. Mais des énoncés performatifs, c'est des énoncés qui ne consistent pas seulement à décrire ou à constater un état de fait, mais à produire cet état de fait. C'est le cas dans des contextes institutionnels, par exemple, quand le maire dit « je vous déclare mari et femme », et bien là, son énoncé réalise ce qu'il est en train de dire. Il y a aussi un certain type d'énoncé, et là, pour le coup, on va remettre ça en lien avec la thématique du genre, où ce sont les effets de l'énoncé qui visent, à l'arrivée, vont produire l'état de fait qui est décrit. Et c'est le cas dans ce genre de situation, là on le voit dans le film. Il y a une scène, la scène juste après que Billy a annoncé pour la première fois à son père qu'il fait de la danse, où le père lui dit de façon très crue, mais non mais la danse c'est pas possible, et Billy lui demande de se justifier, et il dit non mais la danse c'est bien pour les filles, les garçons ça fait du foot ou de la boxe. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parlait d'inconscient social. Une des caractéristiques de l'inconscient social, ou de l'habitus, c'est qu'il n'est pas totalement inconscient, en fait. Le père est quand même capable de le verbaliser. Il n'est pas totalement capable de justifier cet ordre donné parce que Billy lui demande, il lui dit, mais pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi est-ce que les garçons devraient faire de la boxe ? Pourquoi les filles de la danse ? Et le père, en fait, est incapable de le dire. Enfin, il est incapable de verbaliser. Il dit, tu sais très bien pourquoi, sans jamais vraiment justifier. Et alors, cette performativité-là, on peut la changer à condition d'alimenter de nouveaux modèles. Et si je reprends l'exemple de Billy, le fait de voir autour de lui des hommes qui travaillent, qui font des travaux manuels, qui sont forts, qui sont violents, etc., tout ça, ce sont des représentations, même visuelles, hein, qui passent pas forcément par le langage, mais qui vont alimenter chez lui l'idée que un homme, ça doit être fort, ça doit faire un travail manuel, etc. Et cette conception-là du genre... ce qui est intéressant quand Butler dit qu'il est performatif, c'est que ça ouvre la voie à ce qu'on puisse le transformer, à condition qu'on change le type d'énoncé qu'on va apporter sur le genre, sur la masculinité, sur la féminité, etc., et le type de représentation qu'on va inonder à leur sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des mannequins atypiques, ce genre de choses, qu'on cherche à diversifier un peu les modèles de la masculinité, de la féminité, pour qu'un maximum de gens puissent s'y reconnaître.
Je vous propose de continuer en musique avec Pierre Demar, Roméo.
Regarde autour de moi, leurs cannes s'ils savaient les pleurs et les cris. Oh, 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 oh. Raconte, raconte, raconte. Et je l'aime mort. Et dans mon film on est si beau. Regardez-nous jouer.
RCN fait Platon Malin, Margot Grosse.
C'était Pierre Demar avec Roméo à l'instant sur RCN. On est toujours avec Paul Babin, tu es professeur de philosophie et tu es venu nous parler du film Billy Elliot pour nous donner des éléments d'analyse philosophique. On disait tout à l'heure que le personnage principal est confronté aux modèles qui correspondent au genre masculin. Cette construction sociale qu'on a tous naît en fait de la répétition de certaines pratiques. Ici, on a dit que le père de Billy Elliot le pousse à pratiquer la boxe, un sport qui met en avant la force physique. Donc, il est très, très confronté à ce genre de comportement. Et ça appelle à l'imitation. On peut se demander pourquoi ça appelle tant à l'imitation, alors que quand on parle plutôt d'imitation, on pense aux enfants, on pense aux animaux aussi, mais pas forcément à un jeune adolescent qui imiterait des comportements.
Je crois quand même que nos comportements sociaux sont caractérisés précisément par des rapports d'imitation et sont déterminés par des rapports d'imitation. Pas seulement en matière de genre d'ailleurs, hein, que ce soit les comportements culturels, etc. Un bourgeois qui va à l'opéra, au fond, il imite ce que font ses parents, ce que les gens de son milieu, etc. font, sur les comportements alimentaires aussi, hein, le fait que des personnes issues de catégories bourgeoises s'alimentent, mangent des produits bio, ce genre de choses, c'est aussi sans doute déterminé par le fait qu'ils voient les gens autour d'eux faire cela. Après, ce qui est particulier sur les comportements sociaux, c'est que on va développer ce que Bourdieu appelle des stratégies de distinction, c'est-à-dire qu'on va non pas présenter ça comme une reproduction fidèle de ce que font les gens autour de nous, on va chercher à présenter ça comme une préférence personnelle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mystification qui se fait, et qui est d'autant plus peut-être, qui est maîtrisée d'autant plus habilement par les catégories bourgeoises. C'est-à-dire que dans le cas de Billy Elliot, dans le milieu dans lequel il évolue, les rapports d'imitation, ils sont très clairs. Ils sont très clairs, mais à mesure qu'une population va posséder ce qu'on appelle un capital culturel important, hein, donc c'est déterminé par le niveau d'études, le niveau de savoir, de savoir-faire qu'on possède, on va être capable d'autant plus, on va avoir d'autant plus les moyens linguistiques, etc., de présenter tous ces comportements-là comme des préférences personnelles. Au fond.
Est-ce qu'on peut parler d'un désir de reconnaissance qu'a Billy Elliot dans ce film ?
Oui. Alors, oui, mais je pense que ceux auprès de qui, les modèles auprès de qui il cherche à obtenir de la reconnaissance évoluent au fil du film. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au début, il cherche vraiment à obtenir la reconnaissance de son père, de sa famille, etc., en faisant de la boxe, etc., et sans d'ailleurs que ce soit totalement conscient. Hein. Puis, il va chercher clairement à obtenir la reconnaissance plutôt de Mrs. Wilkinson, etc. Et il y a un moment donné vraiment où le modèle du père, il vient à s'opposer à lui. Il y a cette très très belle scène, où c'est la nuit de Noël d'ailleurs, où Billy est avec son ami Michael, il est en train de lui apprendre un petit peu à danser, et il y a un ami du père, le père est avec ses amis ivres dans la rue, et il y a un des amis qui les voit en train de danser à l'intérieur du gymnase, il appelle le père, et le père, on voit qu'il est sur le point d'exploser de colère, ou même de devenir violent, Et il y a cette scène magnifique, ce moment magnifique où Billy se met à danser devant lui comme une espèce de geste de révolte. Et là, en tout cas, c'est comme ça que je le lis, ce moment-là. C'est comme une façon de montrer qu'il cherche plus la reconnaissance. Il parvient à s'affirmer indépendamment du modèle ou des contraintes que lui impose son père. Ne serait-ce qu'en termes de représentation.
On arrive presque à la fin de cette émission. Pour terminer, j'ai une dernière question. Il y a des penseurs qui ont travaillé justement sous l'idée que, quelque part, on est comme esclave de ses désirs, comme là on pourrait dire que Billy Elliot a un désir de reconnaissance. Est-ce que là on pourrait dire que pour Billy Elliot, il est quelque part aussi esclave de son désir de pratiquer la danse et d'être reconnu aussi par sa famille ?
Je ne sais pas si on dirait esclave, mais il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre de la pulsion, du désir, etc. Et c'est d'ailleurs assez frappant à la toute fin du film, au moment de l'audition. C'est-à-dire que Billy passe son audition dans cette grande école de danse, le Ballet Royal de Londres. Il y a d'ailleurs une autre scène où il se bagarre avec un autre garçon, enfin il le frappe en tout cas, ce qui est d'ailleurs le signe que Billy n'a pas totalement renoncé au modèle masculiniste dont il vient. Mais à la fin, le jury essaye de lui demander pourquoi il aime la danse, qu'est-ce qu'il aime là-dedans, cherche à lui faire verbaliser en fait son goût pour la danse. Et alors Billy a bien du mal à répondre, mais à la fin, ce qu'il finit par dire, c'est qu'il sent comme une espèce d'électricité au sein de son corps, il a l'impression de disparaître, etc. Donc oui, il y a quelque chose comme ça, l'ordre de la pulsion qui se dégage. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il est esclave de son désir, parce que l'histoire du film, c'est quand même celle d'une libération, d'une émancipation à l'égard de certains modèles, de certains comportements. Mais il y a quelque chose, sans doute, de pulsionnel dans le rapport que Billy a à la danse, effectivement.
C'est comme un petit peu une non-maîtrise, si on peut dire ça, non-maîtrise de son désir de pratiquer de la danse. Dans le sens où il a des pulsions et...
Billy se met pas à pratiquer la danse impulsive, mais c'est vrai que la danse finit par opérer comme une espèce de... modalité d'expression de soi. Pour Billy, c'est-à-dire qu'on le voit dans certaines scènes, il y a des scènes quand Billy est heureux, il se met à danser comme ça dans la rue de façon un peu fiévreuse. Quand Billy est énervé, il se met à danser de façon un peu plus furieuse, etc. Enfin, il y a toujours cette espèce de... Ouais, la danse finit par devenir comme une espèce de co-extension de Billy lui-même, au fond.
Et ça lui permet d'affirmer son moi aussi.
Ouais, clairement. Pour le coup, la danse est clairement un outil d'affirmation de soi contre le père, mais aussi d'expression de ses sentiments, de sa colère, etc. Enfin, il y a une scène, voilà, celle à laquelle je faisais... référence de façon un peu suggestive, où Mrs. Wilkinson vient dire à la famille que en fait Billy vient de rater son audition à cause d'eux. Et bon, il y a cette scène incroyable où Billy se fait humilier par son frère et son père, qui lui disent « mais tu peux pas faire de la danse, c'est ridicule ». Et il y a une scène qui suit juste après où on voit Billy danser furieusement pour exprimer sa colère, sa rage, etc. Donc ouais, la danse c'est vraiment une façon pour Billy de s'exprimer, de s'affirmer clairement. Ouais.
Merci beaucoup Paul, on est très content de t'avoir reçu dans nos locaux, c'était un plaisir.
Bah, tout le plaisir était pour moi, merci.
Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous jeudi dans deux semaines de 14h à 14h30 pour la prochaine émission.